France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité.
Le journal, présenté par Anne-Laure Chouin.
Bonjour à toutes et à tous. Le projet de loi de finances 2021, inédit à plus d'un titre, est discuté à partir de ce lundi par les députés. Les crédits alloués à la relance viendront fin octobre. Aujourd'hui et les jours prochains, c'est du premier volet qu'il sera question, à savoir 10 milliards d'euros d'allègement d'impôts de production, un budget hors norme qui arrive après une contraction du PIB historique, moins 10% prévu à la fin de l'année. À gauche, des voix s'élèvent pour demander des contreparties à ces allègements fiscaux pour les entreprises. Certains députés critiquent également le manque de mesures destinées à contrer la pauvreté qui, selon certaines ONG, menace déjà de nombreux foyers. Bernard Tapie à nouveau devant la justice. 15 mois après sa relaxe, il est rejugé à Paris à partir d'aujourd'hui avec 5 co-prévenus. Il comparaît toujours pour avoir bénéficié de 403 millions d'euros en 2008 en faveur d'un arbitrage soldant un litige entre lui et la banque Crédit Lyonnais. Arbitrage ensuite annulé pour fraude. Un premier jugement avait relaxé Bernard Tapie. C'est le parquet qui a fait appel. C'est une semaine importante qui s'ouvre entre l'Europe et la Grande-Bretagne, qui doivent théoriquement trouver les modalités de leur relation future d'ici le 15 octobre. Les deux négociateurs en chef, Michel Barnier pour l'Union européenne et David Frost pour le Royaume-Uni, avaient indiqué en fin de semaine dernière avoir bien avancé. Mais des sujets épineux sont encore non réglés, comme les droits de pêche ou la mise en place de règles du jeu équitables en matière de concurrence. Enfin, dans le Nagorno-Karabakh, les forces en présence s'accusent mutuellement depuis hier de ne pas respecter l'accord de trêve entré en vigueur samedi. Aucun échange de prisonniers ou de corps n'a eu lieu, ce qui était pourtant un objectif du cessez-le-feu humanitaire négocié par Moscou. La trêve a été négociée par les ministres arméniens et azerbaïdjanais des Affaires étrangères sous l'égide de la Russie, un conflit qui pourrait bien s'internationaliser puisque la Turquie encourage Bakou à l'offensive et que Moscou est lié par un traité militaire à Erevan.
Здравствуйте, с вами говорит инженер атомной энергетик Григорий Медведев.
Elle mène le combat littéraire et politique avec un courage exemplaire. En soutien à l'écrivaine et prix Nobel de littérature Svetlana Alexievitch, en première ligne aujourd'hui dans la contestation en Biélorussie, France Culture vous propose un cycle consacré à son œuvre. Il se poursuit avec la supplication.
Tchernobylская молитва.
Comme dans tous ses livres, elle y recueille la parole des survivants. La supplication, Tchernobyl, chronique du monde après l'apocalypse, de Svetlana Alexievitch. Le feuilleton, de lundi à vendredi à 20h30 et sur franceculture.fr.
Vous vous rendez compte, par le fait que je suis née en Iran, mon passeport me permettait de voyager dans un seul pays.
Petite fille excentrique de la bourgeoisie de Téhéran, la dessinatrice Marjane Satrapi découvre la France en colonie de vacances, les chocobéennes, les malabars, les gros mots, l'odeur du métro, en un mot, la liberté. Elle publie en 2000 sa biographie en bande dessinée, Persepolis, qu'elle adapte au cinéma. À voix nue, Marjane Satrapi, du lundi au vendredi à 20h sur France Culture et sur franceculture.fr.
Et à 6h03 sur France Culture, c'est la chronique de Bruno David, le monde vivant aujourd'hui, un animal qui a fait couler beaucoup d'encre, le pangolin.
Qu'est-ce qu'il y a des écailles de poisson, grimpe aux arbres, se roule en boule et qui, comme nous, marche debout et donne naissance à un seul petit à la fois qu'il peut transporter sur son dos ou sur sa queue. Non, ce n'est pas une créature née de l'imagination de Tolkien, mais un animal bien réel pour lequel l'humoriste Pierre Desproges a apporté une réponse éclairante. Écoutons-le. Il ressemble à un artichaut à l'envers avec des pattes, prolongé d'une queue à la vue de laquelle on se prend à penser qu'en effet, le ridicule ne tue plus. Vous l'aurez peut-être deviné, il s'agit du pangolin. On devrait d'ailleurs dire les pangolins, car il existe 8 espèces rangées dans le groupe des manidés, qui sont des mammifères pholidotes, ce qui en grec veut dire « couvert d'écailles ». Bon, en disant cela, je vous embrouille un peu. Disons simplement que les pangolins sont si étranges que les scientifiques ont créé le groupe des pholidotes rien que pour eux. Surprise de la science, on apprenait jadis à l'école que les animaux à écailles étaient des reptiles. Voilà un animal à très grosses écailles, mais classé dans les mammifères. Autre surprise de la science, les pholidotes, et donc les pangolins, sont de lointains cousins des carnivores, c'est-à-dire des chiens, lions, loups et ours. Mais que font les zoologistes? Les 8 espèces actuelles fréquentent les zones tropicales d'Asie et d'Afrique. À l'exception du pangolin géant africain dont le poids peut dépasser 30 kg et la taille 1,50 m, les 7 autres espèces ne sont pas plus grosses qu'un petit chien. Nocturne, discret, l'animal semble complètement dépourvu d'agressivité. Et seules les fourmis et termites dont il fait son ordinaire pourraient être d'un autre avis. Lorsqu'il est agressé, il s'enroule sur lui-même, ce qui est interprété par certaines populations africaines comme une offrande. Car en Afrique, il peut être vénéré et être le héros de nombreuses légendes. L'anthropologue britannique Mary Douglas, au début des années 1950, recueillit auprès des Lélés du Kasaï, dans l'actuelle République démocratique du Congo, ce témoignage. Dans notre forêt, il y a un animal avec le corps et la queue d'un poisson recouvert d'écailles. Il a 4 pattes et il monte aux arbres. De par ses écailles, le pangolin se trouve associé à l'eau, principe de fertilité. Favorisant la fécondité des femmes, il se retrouve appelé « chef ». Mais sa puissance symbolique est plus grande encore, car nous sommes en présence de l'animal-esprit qui est l'ami de l'homme et même son représentant au sein du monde animal. S'il se laisse capturer par les chasseurs, c'est parce qu'il le veut bien. C'est donc en termes de sacrifice qu'il faut interpréter sa mort et sa consommation, qui sont au cœur des coutumes magico-religieuses des Lélés. Enfin, il est le seul animal sensible à la honte. Ne baisse-t-il pas la tête lorsqu'on le rencontre, comme un homme qui évite de regarder sa belle-mère? C'est nous qui devrions avoir honte de lui faire du mal et de le trouver ridicule. D'ailleurs, Pierre Desproges l'avait compris et lui avait présenté ses excuses.
Mettez vos sens en éveil, 6h, 7h, les petits matins de France Culture. Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, bienvenue dans le réveil culturel à la radio ou en podcast. Et aujourd'hui en compagnie de Maïlys Ademar à l'occasion de la sortie de son premier roman Béni soit Sixtine aux éditions Julliard. C'est un roman qui épouse les codes du thriller psychologique d'une manière remarquable pour raconter l'embrigadement d'une jeune femme pieuse par des catholiques intégristes. Et en deuxième partie, nous recevrons Auriane Jeancourt pour ses coups de cœur littéraires du mois.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Bonjour Maïlys Ademar.
Bonjour Toufik.
Et merci d'être venu de Toulouse où vous habitez pour nous parler de votre premier roman, un roman remarquable. Alors, je vais quand même le résumer pour qu'on puisse parler un peu de tous les thèmes très forts et très poignants que contient ce premier récit. Alors, ça s'appelle Béni soit Sixtine. Pourquoi Sixtine ? Parce que l'héroïne de votre roman, c'est la 6e arrivée dans sa famille bourgeoise, nantaise et traditionnaliste. Son jeune époux, Pierre Louis, ultra-catho élevé dans les milieux royalistes et légitimistes, meurt après avoir donné la mort dans une rixe opposant sa milice à un groupe de gauchistes partisans du mariage pour tous. Et ainsi donc, avec son bébé né 3 mois après le drame, la jeune veuve de 24 ans doit rompre avec son milieu pour échapper notamment au pouvoir de sa belle-mère, une femme de caractère bien décidée à s'occuper de l'éducation de son petit-fils. C'est un milieu que vous connaissez, ce milieu que vous décrivez dans votre premier roman, Maïlys Ademar.
Oui, je le connais de près, puisque j'ai grandi moi-même dans une famille traditionnaliste qui était assez différente de celle de Sixtine, mais qui était proche par les croyances et par les rites que j'ai connus enfant. Ouais.
Qu'est-ce qui vous a donné envie d'abord d'écrire cette histoire ? Parce qu'il y a d'abord un vrai plaisir à lire ce roman, parce qu'il est très bien construit, je l'ai dit, c'est vraiment un drame psychologique, on est tenu en haleine du début jusqu'à la fin de ce roman. Mais il y a aussi ce côté documenté, hein, c'est-à-dire cette immersion chez les tradis.
Moi, je me suis éloignée de ce milieu-là quand j'ai eu l'âge de la majorité. Mais en fait, c'est quand j'ai retrouvé des amis que j'avais côtoyés étant petite, des amis d'enfance avec lesquels j'avais grandi dans ce milieu. Quand je les ai retrouvés retrouvée des années plus tard, après moi m'être éloignée, avoir fait beaucoup de chemin par rapport à ça. Et en fait, elles étaient restées, elles étaient toutes restées dans le giron de leur éducation. Elles n'avaient pas du tout évolué. Elles étaient restées vraiment dans cette foi-là. Elles s'étaient mariées avec des hommes de la communauté. Elles avaient déjà beaucoup d'enfants. Et ce n'était pas forcément par choix. C'était vraiment un devoir. Elles avaient vraiment suivi le chemin qu'on leur avait dit de suivre depuis l'enfance. Et en fait, c'est en les retrouvant, en voyant ce qu'elles étaient devenues, je me suis dit, mais est-ce que moi j'aurais pu devenir ça? Et comment une jeune fille qui a grandi, qui s'est mariée, qui allait jusque-là, pourrait s'éloigner de ce milieu-là? Comment elle pourrait s'émanciper de tout ça?
Alors, comment décrire ce milieu? Parce que dire ultra-catho ou traditionnaliste ou intégriste, ça ne résume pas tout. Comment le décrire?
C'est difficile. C'est en fait un milieu. C'est une frange qui est. C'est pas la majorité des catholiques. C'est vraiment une frange extrême des catholiques qui s'est arrêtée en fait à la religion catholique comme elle était au début du XXe siècle. C'est-à-dire qu'ils ont refusé le Concile Vatican II. Ils ont refusé toute la vague de modernisme qu'a traversé l'Église. Et donc à la fois ils sont restés sur donc la messe en latin comme elle l'était avant Vatican II, sur une façon de pratiquer la foi qui est celle du début du XXe siècle. Les mêmes d'avant, et aussi ça va de pair avec un côté très extrême droite, voire monarchiste. C'est vraiment un ensemble de valeurs comme ça qui sont mises dans le même panier, alors que la foi chrétienne ne va pas forcément de pair avec l'extrême droite et avec une vision politique aussi extrême, justement.
Ce qui rend intéressant votre roman, Béni soit Sixtine, c'est pas l'histoire de l'émancipation de Sixtine, c'est pas l'histoire de cette jeune femme qui va rompre avec son milieu. Elle voudrait s'émanciper, mais tout en gardant sa foi. C'est ça qui est important dans votre roman et dans ce personnage.
Alors, je sais même pas si elle veut s'émanciper, parce qu'en fait, dans ce milieu-là, s'émanciper, c'est le mal. C'est-à-dire que c'est vraiment un monde qui voit l'extérieur comme étant le mal, l'objet du démon, la construction du diable, comme étant le conformisme, comme étant vraiment l'ennemi. Et du coup, c'est très difficile d'avoir envie du diable. On peut pas... Les jeunes filles de ce milieu-là, elles ne désirent pas l'extérieur, en fait. Pour elles, c'est quelque chose qui est vraiment, qui fait très peur, qui est vu de façon très négative. Donc Sixtine, elle n'a pas forcément de désir de s'émanciper. C'est vraiment son enfant, en fait, c'est ce déclic, ouais. C'est par amour pour son enfant qu'elle se dit...
C'est vrai qu'elle le fait instinctivement, hein, pour sauver son enfant.
C'est vraiment ça. Et en fait, moi, dans ma tête, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait permettre à une jeune femme qui a grandi là-dedans, comme toutes ces filles que j'ai connues, qui n'ont connu que ça, qui ont été dans des écoles intégristes, qui n'ont eu aucune ouverture sur le monde, qu'est-ce qui pourrait leur permettre de sortir? En fait, c'est l'enfant, parce que moi, c'est une expérience que j'ai vécue en tant que maman, c'est l'enfant qui donne une force, en fait. Pour cet enfant, on est prêt à tout, et notamment à fuir ce qui nous semblait être la norme. Et donc, en fait, c'est cet enfant qui lui donne la force de fuir, et puis là, en fait, elle va rencontrer des gens qui n'ont rien à voir, et ce sont ces rencontres qui vont lui ouvrir les yeux, qui vont lui donner envie de s'émanciper.
Et vous jouez vraiment avec les nerfs du lecteur, si j'ose dire, Maïlissa Desmarres, parce que la jeune et vulnérable Sixtine, est-ce qu'elle va réussir son émancipation? C'est fluctuant, c'est-à-dire, des fois elle avance, des fois elle recule, des fois elle regrette.
Pour moi, c'est assez réaliste, en fait. Je voulais que ce soit réaliste. C'est-à-dire, je pense pas qu'on puisse d'un seul coup se dire, mais oui, en fait, tout ce que j'ai connu, tout ce qu'on m'a dit, tout ce que j'ai vécu depuis mon enfance, c'est nul. Et en fait, la liberté, la vie est ailleurs. C'est-à-dire que je pense que c'est un combat, en fait. Parce que c'est un combat, déjà, qui se passe dans sa tête. Elle, tout ce qu'on lui a dit, qui était le mal, qui était donc ce démon, tout à coup, ça ne peut pas devenir quelque chose de bien, d'acceptable. C'est vraiment un combat qui se fait par petites touches, par des retours en arrière, par des envies de replonger finalement dans cette foi et dans ce milieu qui est aussi confortable, parce que finalement quand on y reste, même si ça peut sembler violent pour les gens venus de l'extérieur, ben, quand on a connu que ça, c'est plus confortable d'y rester que d'oser se frotter au reste du monde.
Thank you. Le Réveil culturel, Tufik Hakem sur France Culture.
Alors il y a l'histoire de Sixtine et puis il y a aussi dans une autre temporalité l'histoire de sa mère et de comment elle, sa mère, est devenue religieuse ou intégriste ou ultra-catho. C'est quoi la bonne définition pour vous ?
Pour moi, la définition, intégriste, je trouve que c'est... D'ailleurs, c'est comme ça que l'Église catholique les considère, hein, cette frange des catholiques qui ont même été... le pape ne les considère pas comme faisant partie de l'Église, hein, pour une bonne partie d'entre eux. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment considérés comme intégristes. Donc oui, sa mère... en fait, là, j'avais vraiment envie de montrer que c'est pas forcément un milieu qui de grands aristocrates, de grandes familles françaises. Il y a ça dans ce milieu.
Oui, donc c'est pas une tradition qui se transmet, non, puisque
il y a des gens qui viennent de, il y a en effet des gens qui viennent de grandes familles françaises qui sont restés figés sur le passé, mais pas que. Il y a aussi beaucoup de gens qui viennent de milieux très très différents, qui étaient un peu perdus, qui avaient pas trop de repères et puis qui sont fait happer en fait par ce groupe qui donne une famille, parce que ce sont des communautés assez fermées, qui donnent vraiment beaucoup de... Les gens vivent entre eux, se marient entre eux, ils se voient pour les fêtes religieuses, etc. Donc ça apporte quand même quelque chose de très constructif, en fait, dans la vie de tous les jours. C'est comme des... En fait, ça apporte un cadre pour des gens qui n'en avaient pas. Et donc ça attire des gens paumés qui vont se retrouver là-dedans, s'accrocher à ça, et du coup s'y accrocher d'autant plus qu'eux, ils n'étaient pas issus de familles
croyantes.
Ouais.
Maïlys, ça démarre, je vais vous demander de lire un extrait choisi par mes soins de votre premier roman, Béni soit Sixtine, pour qu'on entende un peu aussi votre style.
Ce soir, Pierre-Louis n'a pas le temps. Une réunion de la milice. La validation de la loi du mariage pour tous par le Sénat est pour demain. Certains se réjouissent déjà. Ils vont avoir affaire à eux. Les croisés ne baissent pas les bras. Avant de partir, après un bref passage, Pierre-Louis embrasse le front de Sixtine. Un baiser froid, convenu. Sixtine est assise sur le canapé, tête perdue dans le vide. Elle ne regarde pas la nuque de son époux franchir le seuil. Cette nuque rase, solide, bien droite. Pierre-Louis porte son veston matelassé sous sa veste en cuir. Un pantalon beige, des chaussures bateau. D'un geste machinal, il attrape une matraque toujours posée au-dessus de l'horloge comtoise. Une cachette invisible. La porte se referme. La matraque est déjà à sa place sous le molleton marine.
France Culture, Le Réveil culturel, Tufik Hakem.
Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant.
Je suppose
suppose que ce n'est pas ce genre de chanson que vous écoutiez quand vous étiez jeune, Maïlys Adémar.
Non, par contre, les mots me parlent, je le connais par cœur. Cette prière, je l'ai récitée pas mal de fois.
Et aujourd'hui, vous en êtes où avec votre foi?
Ah, ça me regarde, mais...
C'est aussi le sujet de votre livre, Béni soit Sixtine.
Non, moi, je me suis beaucoup plus éloignée de la foi que Sixtine à la fin de ce texte. Moi, je ne sais pas trop où j'en suis et je n'ai pas trop envie d'apporter de réponse à ça, je pense que...
Par quoi on peut remplacer la foi? Parce que vous montrez aussi à quel point ça peut être réconfortant.
La foi?
Mais oui.
Par la vie, par vivre, par être heureux, ouais, tout simplement.
Qui vous a demandé ou comment vous avez eu l'idée d'écrire, de vous lancer dans cette aventure romanesque, Maïlys Adémar?
Moi, j'ai toujours écrit depuis que j'ai 8 ans. J'ai toujours écrit.
Vous êtes journaliste, hein?
Ouais, je suis journaliste. Ouais. J'ai toujours écrit des histoires depuis que je suis toute petite. J'en ai écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, il y a 2 ans, j'ai vraiment eu cette idée qui m'est venue en tête, cette histoire qui m'est... Du début à la fin, j'avais l'histoire dans la tête, elle me trottait dans la tête, elle n'arrêtait pas le personnage de Sixtine, je l'avais, et je me suis dit, il faut que je l'écrive. Et donc j'ai pris du temps pour ça, je suis d'abord partie dans un monastère pour me plonger, replonger un peu là-dedans, dans ces souvenirs-là. Ouais. Et puis voilà, je l'ai écrit très vite, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire. Beaucoup de plaisir à l'écrire parce que c'était des souvenirs qui, je pense, étaient un petit peu douloureux pour moi. Et en fait, de les coucher sur le papier et puis de libérer cette jeune fille, en fait, ça m'a fait du bien de la libérer aussi. Ça m'a soulagée.
Et donc, voilà, auteur.
Oui, si on veut, oui.
Ouais. Ce livre a été remarqué par la presse. Il fait partie de notre sélection des meilleurs premiers romans de la rentrée. Ça vous donne envie de poursuivre cette aventure?
Oui, bien sûr. Moi, j'avais déjà commencé à écrire une nouvelle histoire avant même de savoir que mon livre allait être publié. Donc oui, je continue à écrire et j'ai très envie de continuer. Ouais.
Quels sont les auteurs qu'on peut trouver chez vous, par exemple, dans votre bibliothèque?
Il y en a plein. Après, moi, j'ai été beaucoup marquée par les auteurs latino-américains, comme Luis Sepúlveda ou Francisco Coloane. Et voilà, c'est vraiment une littérature sud-américaine que je trouve très intéressante, très belle, très marquée par l'histoire aussi, par les dictatures. Enfin, je trouve qu'ils mêlent beaucoup de choses qui sont passionnantes.
Premier passage à la radio, donc pour vous, Maïlys, ça démarre?
Oui, pour ce roman, oui, premier passage, ouais. À Toulouse, donc c'est ouais, sur une radio toulousaine, avec une autre voix.
Bon, ceci dit, j'ai bien noté que vous n'avez pas du tout l'accent toulousain.
Non, mais je peux le prendre si vous le souhaitez.
Merci d'être venu. Je rappelle que c'est chez Julliard que sort votre premier roman, Maïlys, ça démarre, Béni, soit Sixtine. Dans un instant, Oriane Jeancourt pour sa chronique mensuelle, ses coups de cœur littéraires Oriane Jeancourt du magazine Transfuge.
Le réveil culturel, Tofik Hakem sur France Culture.
Et comme tous les mois, on retrouve Oriane Jeancourt du magazine Transfuge. Bonjour Oriane.
Bonjour Tofik.
Alors vous l'avez lu bien sûr, ce premier roman, Béni soit Sixtine, de Maïlys Adémar, édité chez Julliard. D'ailleurs, c'est un roman, un des premiers romans édités par Vanessa Springora.
Mais vous me l'apprenez, oui, c'est un roman très surprenant qui nous fait découvrir un monde, évidemment, auquel peu d'entre nous ont accès.
Beaucoup de premiers romans remarquables en cette rentrée littéraire. Qu'est-ce que vous avez retenu au rayon premier roman d'ailleurs?
J'avais envie de vous parler d'une jeune chinoise. Elle s'appelle An Yu et elle publie Port Braisé aux éditions Delcourt. Vous savez, c'est très rare la littérature chinoise. On a du mal à la traduire, on a du mal à la comprendre, parfois à la lire. Et là, c'est un roman absolument étonnant de cette jeune femme qui raconte la fin d'une histoire d'amour. Ça commence par la fin d'une histoire d'amour. Son mari meurt, se suicide, et cette jeune femme va trouver un étrange dessin à côté du lit de son mari, d'un homme poisson. Et donc, cette femme va ensuite traverser toute la Chine, aller jusqu'au Tibet pour essayer de comprendre et l'histoire de son mari et sa propre histoire. Et c'est un roman qui est porté par une grâce, par une forme d'onirisme, qui nous offre l'étrangeté et en même temps la familiarité d'un roman tel qu'on peut les aimer. Donc j'ai trouvé que ce roman avait beaucoup de singularité et beaucoup de charme.
Bonne nouvelle de chez Delcourt, donc éditeur qui a longtemps fait que de la bande dessinée et qui se lance maintenant dans la littérature. Port Brisé de Agnew.
Absolument.
Et votre grand coup de cœur, Auriane Jeancourt.
Écoutez, je suis très contente en littérature. Nous avons un long entretien avec Karlov Knausgård.
Maître de l'autofiction.
Voilà, depuis maintenant, c'est son dernier tome, sixième tome, septième livre, nous raconte sa vie, toute sa vie et rien que sa vie. C'est comme ça qu'il a atteint la notoriété, puisqu'il a fait ce geste littéraire ou ce geste anti-littéraire, chacun peut l'interpréter comme il le veut, de raconter certains moments de sa vie dans les détails les plus triviaux, donc c'est-à-dire la vie d'un homme de 40 ans en Norvège et en Suède, qui est écrivain, qui a un peu de succès, quelqu'un de très torturé, quelqu'un qui est très marqué par la mort de son père, puisque finalement c'est ça qui tient l'ensemble de cette énorme, gigantesque entreprise autobiographique à laquelle il met fin avec Fin de combat, qui donc paraît aujourd'hui.
Chez De Noël, c'est le sixième tome.
C'est le sixième tome et c'est à mon avis le plus puissant puisque c'est là où il raconte le début de la publication de son entreprise autobiographique et comment est-ce que la famille de son père l'a attaqué, puisque ça a été tout un scandale en Suède, l'a attaqué en disant tu n'as pas le droit de dire ça, dire quoi, et puisqu'il raconte la déchéance de son père.
L'éternelle question, est-ce qu'on a le droit de tout raconter
voilà.
ou pas?
Et il aborde cette question-là avec beaucoup d'intelligence et de finesse littéraire.
Karlov Knausgård, j'espère que je prononce bien, Fin de combat, c'est édité chez De Noël. Néanmoins, ce n'est pas un écrivain qui fait la couverture de Transfuge, ce mois-ci. David Hockney.
Oui, David Hockney, le peintre, l'immense David Hockney. Écoutez, c'est notre première couverture art. Et on a des pages sur l'art plastique depuis 2 ans, mais c'est voilà. Et on avait envie, pour cette première couverture, qui augure d'un certain nombre, je l'espère et je le sais, et bien comme ça, d'avoir un maître vivant, David Hockney, qui a accueilli notre critique d'art Fabrice Guéniaud chez lui pendant plus de 4 heures, chez lui en Normandie, dans son atelier, qui lui a montré comment il peignait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il peint aujourd'hui sur iPad, ce qui donne une peinture complètement différente de ce qu'il fait, et puis qui lui raconte toute son histoire, qui lui raconte cette obsession de la peinture, de l'optique. Il raconte comment est-ce qu'il a réfléchi à la perspective, à l'absence de perspective, puisque c'est ça qu'il a choisi. Il raconte aussi toute cette vie européenne à Londres et puis à Los Angeles aussi et à Paris. Pour lui, peintre anglais, dans cet univers de peinture, il parle de Warhol, il parle voilà, de tous ces peintres, de tout ce monde de l'art. Et voilà, donc c'est un entretien qui fait 10 pages et qui nous a complètement impressionnés. Comment est-ce qu'un peintre, à la fin de sa vie, je crois qu'on peut le dire, tout d'un coup, nous raconte l'histoire de son œuvre.
Et c'est donc la couverture du dernier numéro de Transfuge. Merci, Auriane Jeancourt,
merci
d'être passé ce matin et à très vite.
Le réveil culturel. Tous les matins de la semaine, tôt à la radio ou quand on veut sur franceculture.fr.
Une émission préparée avec la complicité de Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard avec ce matin à la technique Cédric Chatelus. Bonne matinée, à demain.
France Culture. L'esprit d'ouverture.
De grandes dates et des faits quotidiens, le cours de l'histoire sur France Culture, Xavier Mauduit.
Qu'en est-il du travail à domicile avant l'ère du télétravail ? Les paysans, s'ils ne sont pas dans les champs, fabriquent des couteaux, des horloges, du tissu. Ainsi, des paysans hors champ aux moines en bleu de travail et des aristocrates au labeur jusqu'au travail invisible des femmes au foyer, cette semaine, c'est une histoire du travail à domicile.
Le cours de l'histoire, du lundi au vendredi à 9h05 sur France Culture et sur franceculture.fr.
Deux concerts exceptionnels de l'Orchestre Philharmonique de Radio France avec la violoniste Patricia Kopaczynskaya. Les 22 et 30 octobre à 20h à l'Auditorium de Radio France. Laissez-vous emporter par la virtuosité des deux grands concertos pour violon de Béla Bartók et de deux grandes pages pour orchestre, la Symphonie de Franck et la Symphonie Fantastique de Berlioz, sous la direction de Mikko Franck. Réservation maisondelaradio.fr. Entrez au cœur du concert.
Vous êtes sur France Culture, les informations de 6h30. Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous. Le budget 2021 est en discussion à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Un budget qui prévoit d'abaisser les impôts dits de production pour permettre aux entreprises de ne pas licencier. Les opposants à gauche critiquent l'absence totale de contrepartie à ces allègements fiscaux. La filière tourisme pourra-t-elle se remettre de la crise à l'occasion des vacances de la Toussaint ? Matignon reçoit les acteurs du secteur aujourd'hui. Et puis focus sur les restrictions anti-Covid au Canada, au Québec notamment, où la population est invitée à limiter au maximum les interactions, alors que la deuxième vague de l'épidémie s'annonce plus importante encore que la première. Le budget français 2021 sera inédit à plus d'un titre. Un budget censé éviter l'effondrement économique induit par la crise sanitaire et préparer la relance. À partir d'aujourd'hui, c'est sur le volet baisse des impôts et aide aux entreprises que vont plancher les députés. 10 milliards d'euros de baisse des impôts de production sont prévus en 2021, autant l'année d'après, pour tenter donc d'arriver au rebond espéré par le gouvernement qui table sur une remontée de 8% du PIB, prévision jugée optimiste par beaucoup. Des baisses d'impôts sur les entreprises, donc, qui doivent sauvegarder leur compétitivité. Mais beaucoup d'élus de l'opposition et quelques voix de la majorité réclament à minima des contreparties à ce qu'ils considèrent pour l'instant comme un chèque en blanc. Delphine Simon.
20 milliards d'euros sur 2 ans pour relancer les entreprises, sans aucun engagement ferme pour l'emploi ou l'environnement. À gauche, on dénonce encore un cadeau aux entreprises. Le député de la France insoumise, Éric Coquerel, a encore en tête le million d'emplois promis par le MEDEF à l'époque du crédit d'impôt compétitivité emploi.
C'est des cadeaux aux entreprises sans aucune contrepartie ni fléchage. Donc à la fois, il y a moins d'argent pour l'État, pour les collectivités, et sans aucune certitude que ça serve l'emploi. Le CICE était un peu le même système, avec des crédits impôts, et on a constaté qu'en tout et pour tout, ça avait peut-être maintenu 100 000 emplois, soit à peu près 1 million d'euros l'emploi.
La relance va surtout créer une dynamique, répondent les députés de la majorité, de quoi relocaliser l'industrie. Le chef de file des députés En Marche, Christophe Castaner, s'avance même sur un objectif chiffré.
L'essentiel de la baisse des impôts de production, c'est pour préserver 300 000 emplois dans le secteur industriel. C'est de cela dont on parle, l'essentiel. C'est 300 000 femmes, 300 000 hommes, 300 000 familles qui sont directement impactées. Et ce ne sont pas des cadeaux aux entreprises.
Pour le rapporteur du budget, Laurent Saint-Martin, rien ne doit entraver la relance. Les mesures contre la pauvreté feront l'objet, rappelle-t-il, du 4e budget rectificatif en fin d'année.
Le débat parlementaire est prévu pour durer 1 semaine sur près de 3000 amendements jusqu'au vote prévu mardi 20 octobre. À Beauvau, la semaine sera, elle, consacrée au malaise dans la police avec 2 rencontres prévues entre l'exécutif et les syndicats policiers, notamment à l'Élysée, une demande des agents qui n'avait pas été entendue jusque-là. Samedi soir, l'attaque au mortier d'artifice du commissariat de police de Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. 2 jours après l'attaque de 2 policiers en civil dans le Val-d'Oise à Herblay a provoqué l'émoi chez les syndicats de policiers qui comptent faire valoir à nouveau leurs revendications. Doublement de la prime accordée aux fonctionnaires travaillant la nuit, du matériel adéquat ou encore que le problème des heures supplémentaires non payées soit réglé une fois pour toutes. Autre sujet à l'ordre du jour gouvernemental, alors qu'arrivent les vacances de la Toussaint, le comité interministériel sur le tourisme se réunit à Matignon aujourd'hui, l'occasion de faire le point sur les mesures prises ces derniers mois pour soutenir la filière. Autour de 6 milliards d'euros ont déjà été engagés par par l'État. Pour ce faire, les professionnels voudraient voir confirmer leur espoir d'une reprise dans les prochains mois, malgré les contraintes sanitaires. Philippe Lefebvre.
Dans l'entourage du Premier ministre, on se veut rassurant, il n'y aura pas de restrictions de circulation à l'intérieur de l'Hexagone à l'occasion des vacances de la Toussaint. Et tout à l'heure, durant le comité interministériel, les professionnels du tourisme devraient rappeler les initiatives prises pour rassurer leurs clients, comme les annulations ou les reports de séjour sans frais. Mais dans le monde du tourisme, on ne s'attend de toute façon pas à un retour massif des vacanciers. Tout d'abord parce que la Toussaint n'est pas une période de grand départ. Seuls 17 à 20% des Français partent à cette occasion. Et parce qu'un tiers d'entre eux se rend chez des amis ou dans la famille, c'est ce que l'on appelle l'hébergement non marchand. Toutefois, du côté du gouvernement, on regarde aussi attentivement le ciel en espérant, si la météo est clémente, qu'il y ait tout de même des départs de dernière minute, ce qui pourrait être interprété par les professionnels du tourisme comme un signe positif d'envie de vacances chez les Français à 2 mois de l'ouverture de la saison d'hiver dans les stations de ski. Une ouverture qui s'annonce délicate.
Quoi qu'il en soit, les mesures de restriction se resserrent, notamment pour 2 villes du Sud, Montpellier et Toulouse. Les 2 métropoles passeront demain en zone d'alerte maximale. À l'échelle nationale, les nouvelles contaminations augmentent. Toujours plus de 16 000 au cours des dernières 24 heures, près de 27 000 la veille, de même que les admissions en réanimation avec 1 483 patients au total dimanche, un record depuis le mois de mai. À l'étranger, focus sur 2 provinces canadiennes, le Québec et l'Ontario, qui font face, elle aussi, à une importante hausse des cas de Covid-19 depuis quelques semaines, ce qui amène là encore les 2 régions à resserrer les règles. Au Québec, toutes les régions entre les villes de Québec et de Montréal ont basculé en zone rouge. Désormais, les citoyens ne peuvent plus recevoir personne à leur domicile, ni fréquenter les bars, les restaurants ou les théâtres. Ce règlement s'applique jusqu'au 28 octobre pour donner le temps aux autorités sanitaires d'évaluer son impact à ce règlement, donc sur la hausse des contaminations. Tour d'horizon de la vie en zone rouge avec Pascal Guéricolas, correspondant de France Culture au Canada.
Vous restez dans votre famille, vous allez au travail, puis vous diminuez au maximum les contacts sociaux.
Les consignes du Dr Horacio Arruda, qui dirige la santé publique au Québec, ont le mérite d'être claires. En zone rouge, une région où vivent les 3/4 des Québécois, la vie sociale est désormais strictement limitée. Ces mesures sévères s'expliquent par la brusque montée des cas positifs de COVID-19, surtout chez les jeunes. L'épidémiologiste Nima Machouf.
On a déjà dépassé en nombre de nouvelles infections par jour. On a déjà dépassé la première vague, c'est que ce sont des gens qui sont en contact avec un beaucoup plus grand réseau. Et donc, pour propager l'infection, ça va propager rapidement.
Bars, restaurants, mais aussi théâtres et musées sont désormais fermés en zone rouge, même si tous avaient pris des mesures sanitaires strictes. Une grande frustration pour ce couple amateur de culture.
Qu'est-ce qui va arriver avec l'exposition Turner, là? Ça fait des mois qu'on attend pour aller voir ça. Qu'est-ce qu'il y aurait de mal à aller voir une exposition à 2 mètres?
La santé publique a affirmé qu'il n'y avait pas ou peu d'éclosions dans les cinémas et même dans les salles de spectacle. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, là.
Au collège, les élèves portent maintenant le masque en tout temps et ceux de 4e et de 3e n'ont classe qu'une journée sur 2. Au moins jusqu'au 28 octobre, date à laquelle le gouvernement du Québec va réévaluer la situation.
Pascal Guéricolas. Aux États-Unis, les sénateurs entament aujourd'hui l'audition de la juge Amy Coney Barrett, nommée par Donald Trump à la Cour suprême, malgré l'opposition des démocrates. La magistrate de 48 ans doit succéder à l'icône féministe et progressiste Ruth Bader Ginsburg, morte des suites d'un cancer. Conformément à la Constitution, Amy Coney Barrett doit désormais obtenir l'aval du Sénat pour entrer dans le temple du droit américain où siègent déjà 5 juges conservateurs sur 9. En ces temps de crise sanitaire et économique, les journalistes s'interrogent sur leur rôle et notamment sur cette question. Faut-il aussi faire du journalisme dit de solution? Le thème est à l'honneur aujourd'hui dans de nombreux médias et sur France Culture, à l'initiative de l'ONG Reporters d'Action, créée en 2004 et qui défend la mise en avant d'initiatives concrètes apportant des réponses à des problèmes de société, économiques, sociaux ou environnementaux. Cette tendance est déjà à l'œuvre depuis quelques années. Elle a été confortée par la crise. Selon une étude réalisée pour les dernières assises internationales du journalisme à Tours, les Français sont majoritairement favorables à ce type de traitement de l'information. Et d'ailleurs, les médias se sont repositionnés sur ce créneau dernièrement. L'analyse du sociologue spécialiste des médias, Jean-Marie Charon.
les médias de l'écrit, du numérique, ont fait bouger complètement leur mode de traitement, y compris parce que toute une partie de leur contenu disparaissait, tout ce qui était un peu événementiel, tout ce qui était un peu, y compris l'information culturelle, bien sûr l'information sportive, toute une série de contenus qui n'étaient plus disponibles parce que ça n'existait plus, notamment au moment du confinement, eh bien tous ces médias ont eu tendance à redéployer complètement leur activité vers l'accompagnement de la vie de tous les jours, l'accompagnement de ce public par rapport aux questions qui se posaient sur cette pandémie. Et on a l'impression, en tout cas les retours qu'on avait en termes d'audience notamment, ou dans les émissions interactives, on a l'impression qu'il y a eu un véritable intérêt et une manière de répondre plutôt positivement à ce repositionnement sur le participatif, sur le journalisme de solution.
Jean-Marie Charon, interrogé par Benoît Grossin, et ce journalisme de solution est donc à l'honneur toutes ces journées sur notre antenne. Le temps de ce lundi, de la pluie sur le nord-ouest et du soleil près de la Méditerranée, les températures minimales seront comprises entre 2 et 7 degrés sur une grande moitié nord, entre 6 et 12 degrés ce matin de l'Aquitaine à la Provence. Comptez cet après-midi de 10 à 22 degrés du nord au sud. Et à 6h40 sur France Culture, c'est l'heure du Journal des Idées. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Anne Lorchouin.
Vous revenez ce matin sur les rendez-vous de l'histoire de Blois, dont le thème était cette année gouverner et où l'économie s'est invitée.
Et oui, l'économiste Sophie Arnay, présente à Blois, évoque dans Le Monde les hypothèses d'une bonne gouvernance de l'activité économique oscillante entre le marché, les États, les institutions internationales et l'auto-organisation de la société civile. À partir du constat que la crise climatique peut s'interpréter comme une conséquence de l'incapacité du marché à produire un bien collectif mondial, la préservation du climat, que les crises financières récurrentes sont le résultat du sous-investissement des opérateurs économiques dans un bien collectif qui est la stabilité du système financier. Elle plaide pour une intervention accrue des collectifs d'usagers, capables de mettre en place leur propre système de gouvernance des ressources communes, sans recourir aux autorités publiques ou au marché, en créant des institutions spécifiques adaptées à leurs conditions locales. Le mensuel Alternatives économiques publie un dossier sur la post-croissance. Celui qui croit que la croissance peut être infinie dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste, affirmait l'économiste américain Kenneth Boulding. Des milliers d'emplois pour rénover les logements, changer de modèle énergétique alors que les énergies fossiles représentent encore 57,4% de notre consommation. Pardon. Développer l'agriculture de qualité. Selon le recensement de 2010, les fermes bio employaient en moyenne 2,41 unité de travail annuel, c'est-à-dire le travail d'une personne à temps plein pendant une année, contre 1,52 dans les exploitations conventionnelles. Avec une France 100% bio, on pourrait créer autour de 400 000 emplois dans l'agriculture. Aux antipodes de ces projections, le modèle économique développé par le président américain ne devrait pas jouer en sa faveur, estime Aude Martin, et notamment sa réforme fiscale qui, en baissant les impôts des sociétés et des particuliers, a acheté de la croissance à court terme sans pour autant profiter aux ménages. Les 20% du haut de la distribution des revenus ont ainsi bénéficié des deux tiers des baisses d'impôts. Et le bilan en matière d'investissement de cette politique de l'offre, censée booster la compétitivité américaine, a été écorné par un rapport du Congrès soulignant qu'elle avait surtout conduit les entreprises à réaliser des rachats de leurs propres actions. S'il est vrai que le taux de pauvreté a baissé, le facteur économique qui l'a entre autres favorisé était enclenché dès 2010 et cette baisse n'a pas empêché le creusement des fractures sociales ou raciales. La dernière livraison de la revue America propose enquête et reportage au pays du roi dollar. Sylvie Laurent, auteur notamment de La couleur du marché, racisme et néolibéralisme aux États-Unis, revient sur le rêve américain et le mythe du self-made man. Elle rappelle le rôle de l'esclavage dans la constitution des fortunes de planteurs. Il y avait davantage de millionnaires le long de la vallée du Mississippi en 1850 que dans tout le reste du pays. Et alors, la valeur à cette époque, la valeur combinée des 4 millions d'esclaves présents sur le sol américain, quotidiennement achetés et vendus selon le cours du marché, est supérieure à la valeur de toutes les usines et de tous les chemins de fer du pays. Une réalité évidemment passée sous silence dans les évangiles de la prospérité et autres fariboles à connotation puritaine qui glorifiaient la réussite économique de quelques-uns, renvoyant tous les autres à leurs responsabilités personnelles. John Steinbeck aurait ironiquement déploré que les pauvres aux États-Unis ne se perçoivent pas comme un prolétariat exploité, mais comme des millionnaires en difficulté temporaire. Le mythe à la vie dure, puisqu'aujourd'hui, même un président héritier se prétend « self-made man ». Dans un contexte marqué par la dimension supranationale de certains problèmes comme la fiscalité des multinationales, la cyber-régulation, les mouvements de capitaux et des flux commerciaux ou encore la gestion des pandémies et de l'environnement, quel peut être le rôle des organisations internationales, FMI, Banque mondiale, OMC ou OCDE dans la régulation de l'économie vers un mieux-disant écologique et social? Les actes de la recherche en sciences sociales publient un dossier sur l'Organisation internationale de l'économie. Vincent Gaillon souligne notamment leur effort pour intégrer la critique externe issue de la société civile, même si ce n'est, comme à l'OCDE, que le temps d'un café. Mais ces organisations sont elles-mêmes gouvernées par les idéologies globales de l'économie de marché et elles sont traversées par la concurrence entre des États qui instrumentalisent leurs institutions nationales, fiscales, juridiques et sociales, au service de leur attractivité dans une course vers le moins-disant collectif. 6h45 sur France Culture, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Jacques, bonjour à toutes et à tous.
Au sommaire aujourd'hui, le Haut-Karabakh, Méditerranée orientale, l'OTAN peut-elle raisonner la Turquie?
Oui, que ce soit dans le Haut-Karabakh ou la Turquie, membre de l'OTAN, a réveillé sans prévenir un conflit jusque-là gelé en soutenant et en armant l'Azerbaïdjan turcophone face à l'Arménie, que ce soit en Méditerranée orientale où la Turquie a annoncé cette nuit qu'elle allait renvoyer son navire d'exploration dans les eaux revendiquées par Athènes, comme elle l'avait fait cet été après avoir laissé la marine agresser une frégate française, que ce soit enfin en prévoyant de déployer des missiles S-400 achetés à la Russie. La Turquie multiplie en ce moment que l'Alliance Atlantique pourrait prendre comme des provocations, mais son secrétaire général Jens Stoltenberg visiblement croit dans les vertus d'un mécanisme nouveau à l'OTAN, la déconfliction. Bonjour Général Flick.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes historienne, professeure d'histoire contemporaine à l'Université de Nantes. Alors on se demandait cet été pourquoi l'OTAN n'intervenait pas dans le conflit qui oppose deux pays membres, la Grèce et la Turquie. Voilà, dans le conflit du Haut-Karabakh c'est un peu différent dans la mesure où l'Arménie n'est pas membre de l'Alliance, mais il existe néanmoins des liens entre l'OTAN et l'Arménie. Quels sont-ils?
Oui, il y a des liens relativement anciens entre l'OTAN et l'Arménie. L'Arménie a adhéré au Conseil de coopération nord-atlantique dès 1992, qui est devenu en 97 le Conseil du partenariat euro-atlantique. Alors c'est un forum de dialogue, de consultation sur des questions politiques et de sécurité entre les pays membres de l'OTAN et une cinquantaine de pays partenaires. Mais l'Arménie a aussi adhéré au partenariat pour la paix de l'OTAN dès 94. Et là, c'est une coopération bilatérale militaire. C'est ce qui a amené l'Arménie à participer aux opérations dirigées par l'OTAN en Afghanistan et au Kosovo. Il y a donc une vraie connaissance mutuelle entre les responsables arméniens et les responsables de l'OTAN et une habitude de travailler ensemble.
Ils se connaissent et de nombreux pays membres de l'OTAN nationalement soutiennent l'Arménie dans ce conflit, à commencer par la France. Est-ce qu'ils peuvent chercher à convaincre l'OTAN d'intervenir d'une manière ou d'une autre et comment?
Alors, de fait, l'OTAN a demandé à l'un de ses pays membres d'intervenir, mais précisément c'est à la Turquie, puisque le secrétaire général de l'OTAN a demandé à la Turquie d'user toute son influence pour résoudre au mieux le conflit au Karabakh. Mais de fait, les membres de l'Alliance sont très divisés sur ce dossier, exactement comme pour la Méditerranée orientale. Certains ont pris position en faveur de l'Arménie avec des déclarations fortes, c'était le cas de la France, d'autres pays membres de l'Union européenne, mais la Turquie, membre de l'OTAN, est le soutien traditionnel du régime azéri. Et puis, il faut peut-être ajouter que pour d'autres membres de l'Alliance, qui ne sont pas directement impliqués, l'attitude de la Turquie a un peu bousculé Poutine, a un peu bousculé la diplomatie russe, ce qui est pas sans intéresser, sans plaire, les membres les plus anti-russes de l'OTAN, qui se réjouissent de voir la Russie un peu mise en difficulté dans le Caucase et en tout cas occupée sur place.
Alors dans le différend qui oppose cette fois la Turquie et la Grèce en Méditerranée orientale, quand la Turquie fait des exercices de tir d'artillerie au nord de Chypre ou que deux avions de chasse turcs pénètrent dans l'espace aérien de la Grèce ou quand la marine turque agresse une frégate française, là non plus, l'OTAN ne peut rien.
Alors, il faut rappeler que l'OTAN, la solidarité au sein de l'OTAN est basée sur cet article 5, dont on parle toujours beaucoup, mais qui a été conçu en 1949 pour prévoir la solidarité en cas d'attaque extérieure. Alors, clairement, quand le traité de Washington a été négocié, c'était une attaque extérieure. Il n'était pas du tout envisagé un conflit entre deux membres de l'Alliance. Et j'ajouterai que même quand la Grèce et la Turquie sont entrées ensemble dans l'OTAN en 1952, le modèle mental diplomatique qui s'imposait à l'époque, c'était celui de la réconciliation franco-allemande via les traités européens. On était convaincu que le fait de participer à l'Alliance allait finalement résoudre les conflits entre les deux. Alors évidemment, ça n'a pas du tout été le cas. Mais de ce fait, il n'y a pas de mécanisme dans les institutions atlantiques pour régler une opposition entre deux pays membres.
Donc il y a ce nouveau, mécanisme qui est apparu, qui s'appelle la déconfliction. Voilà. C'est réservé aux pays membres et en quoi ça consiste surtout ?
Alors, ça a déjà été mis en place, de fait, puisque, et notamment pour la Grèce et la Turquie, puisque l'OTAN était déjà un petit peu intervenue après 1974, le conflit, l'invasion de Chypre, et puis dans les années 90, après les graves affrontements et oppositions qu'il y avait eu en 1986, notamment avec plusieurs accrochages militaires. Et puis le processus dit de déconfliction a aussi été utilisé entre la France et la Turquie plus récemment. Voilà. Alors ce mécanisme, il y a plusieurs éléments qui se mettent en place. Là, pour la Grèce et la Turquie, il y a d'abord une série de pourparlers techniques entre des responsables militaires des deux pays pendant tout le mois de septembre, sous l'égide du secrétaire général de l'OTAN. Une demi-douzaine de réunions qui ont eu lieu à Bruxelles, qui ont permis de renouer le contact, de faire se rencontrer, se parler directement les officiers supérieurs grecs et turcs. S'y ajoutent les très nombreux voyages. Secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, se rend régulièrement à Ankara, à Athènes, contact, sert d'intermédiaire personnel finalement entre les deux camps. Et puis, désormais, une ligne téléphonique directe, une sorte de téléphone rouge, a été mise en place entre Ankara et Athènes. Donc, en gros, l'idée, c'est vraiment de maintenir le contact, de permettre aux deux camps de se parler, d'échanger, afin d'éviter l'escalade. La grosse préoccupation de l'OTAN, c'est d'éviter qu'un accrochage, toujours possible, il y en a eu plusieurs récemment et dans le passé, ne dégénère, ne s'embrase et ne dégénère en conflit généralisé. Mais je crois qu'il ne faut pas se leurrer, tout ça repose vraiment sur la bonne volonté des deux camps.
Voilà, et c'est la faiblesse peut-être du mécanisme.
C'est la grosse faiblesse.
Et en l'occurrence, par exemple, enfin, les faiblesses, elles sont aussi juridiques, c'est-à-dire chacun argue de son bon droit dans l'histoire de la Méditerranée orientale.
Tout à fait. Il y a un conflit juridique qui n'a jamais été résolu. La Grèce, se réclame de la convention de l'ONU de Montego Bay de 1982 pour la définition de sa zone maritime. La Turquie ne l'a jamais reconnue ni signée, donc elle n'est pas engagée concrètement par cette convention. La Turquie a signé un accord bilatéral avec la Libye récemment, qui doit, selon elle, s'imposer finalement pour cet espace. Donc chacun juridiquement s'estime dans son bon droit puisque chacun se réclame de textes et de conventions ou d'accords internationaux non reconnus par l'autre.
Alors c'est pas à l'OTAN de décider de se séparer de l'un de ses membres, vous nous l'aviez d'ailleurs expliqué, Général Flick, l'année dernière dans les enjeux internationaux, mais c'est à la Turquie de choisir de rester ou pas. Est-ce qu'il y a au sein de l'OTAN des voix pour dire on n'en veut plus aujourd'hui, enfin je veux dire vraiment à l'aune de ces derniers événements? Et surtout, est-ce que vous pensez que si Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, ne cherche pas trop à bousculer Ankara sur ces dossiers, c'est qu'il pense que de toute façon la Turquie n'a pas d'alternative à l'OTAN, que de toute façon elle ne partira pas?
Alors, sur le premier point, au sein de l'OTAN, on a eu une petite idée des soutiens de la Turquie après l'affaire qui a opposé la Turquie à la France sur au sujet de l'illumination de la frégate Le Courbet. puisque très concrètement, la France a porté l'affaire contre la Turquie devant le Conseil Atlantique. La France a été soutenue par 8 pays, 8 membres sur 30.
Et il y a eu enquête, mais qu'est-ce qu'on en a fait ?
L'OTAN a enquêté. Il y a eu enquête. Le rapport a été classé secret, n'a pas été publié, n'a pas été rendu public, il a été classé secret. On a une petite idée de ce qu'il pouvait contenir aux réactions des deux pays concernés, puisque la Turquie s'est félicitée du travail sérieux de l'OTAN. Donc visiblement, elle était satisfaite du rapport rendu. Et la France a claqué la porte de l'opération Sea Guardian, de façon assez symbolique d'ailleurs, puisque les forces que la France a retirées à ce moment-là de l'opération de l'OTAN en Méditerranée, elle les a replacées dans l'opération menée par l'UE dans la même région, l'opération Irini. Mais ça veut dire que au sein de l'OTAN, la Turquie a des soutiens, clairement. Et beaucoup plus en tout cas qu'en avait la France sur ce dossier. Du point de vue turc, maintenant, il est sans doute préférable d'être dedans que dehors, précisément puisque justement l'OTAN n'entrave pas ses actions jusqu'ici et qu'au contraire, elle a plutôt été soutenue par les autres membres. Donc a priori, la Turquie n'a pas aujourd'hui de raison de sortir de l'OTAN.
Général Flick, la Turquie a aussi posé un sérieux défi à l'OTAN il y a quelque temps en achetant à la Russie des missiles S-400 qui pour l'instant restent stockés, mais qui, lorsqu'ils seront déployés, seront-ils en tout cas de nature à fragiliser le système de défense antimissile de l'OTAN ? Est-ce que là, ça peut être un cas de conflit grave ?
Alors, ces missiles, s'ils étaient activés, effectivement, présenteraient une vraie faille dans le dispositif de l'OTAN, puisqu'il s'agit d'un système interconnecté qui, finalement, relierait la technologie russe à toute la technologie des pays membres de l'Alliance. Donc, ça pourrait être une faille, mais précisément, l'activation de ce système a été plusieurs fois reportée, officiellement à cause du contexte sanitaire, mais on a de plus en plus l'impression que la Turquie s'en sert, justement, plutôt comme un moyen de pression que comme un moyen militaire. Est-ce que la Turquie cherche à ménager Washington en repoussant sans cesse l'échéance, mais en maintenant quand même l'épée de Damoclès ? Quelques débats ont eu lieu aux États-Unis. Des parlementaires américains ont même proposé de racheter le système S-400 à la Turquie. Il y a quand même beaucoup d'incertitudes sur ce dossier et vraisemblablement beaucoup de négociations en sous-main autour de cette question actuellement.
Voilà, en attendant, Donald Trump a dit que les États-Unis ne livreraient pas de bombardiers américains à la Turquie. Mais Trump rappelle très souvent combien il aime beaucoup Erdogan. Il l'a confié notamment au journaliste Bob Woodward qu'il raconte dans son dernier livre. Merci beaucoup, Général Flick, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Nantes. Bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Здравствуйте, с вами говорит инженер атомный энергетик Григорий Медведев.
Elle mène le combat littéraire et politique avec un courage exemplaire. En soutien à l'écrivaine et prix Nobel de littérature, Svetlana Alexievitch, en première ligne aujourd'hui dans la contestation en Biélorussie, France Culture vous propose un cycle consacré à son œuvre. Il se poursuit avec la supplication.
Tchernobylская.
Comme dans tous ses livres, elle y recueille la parole des survivants. La supplication, Tchernobyl, chronique du monde après l'apocalypse, de Svetlana Alexievitch. Le feuilleton, de lundi à vendredi à 20h30 et sur franceculture.fr.
Vous vous rendez compte, par le fait que je suis née en Iran, mon passeport me permettait de voyager dans un seul pays.
Petite fille excentrique de la bourgeoisie de Téhéran, la dessinatrice Marjane Satrapi découvre la France en colonie de vacances, les chocobéennes, les malabars, les gros mots, l'odeur du métro, en un mot, la liberté. Elle publie en 2000 sa biographie en bande dessinée, Persepolis, qu'elle adapte au cinéma. À voix nue, Marjane Satrapi, du lundi au vendredi à 20h sur France Culture et sur franceculture.fr.
Une nouvelle semaine commence à l'écoute de France Culture. Bonjour Guillaume Erner.
Mais bonjour Julie Gacot, bonjour à toutes et à tous.
Votre humeur du jour Guillaume, les évangélistes ont un lien particulier avec le Covid.
Oui, bah d'abord ils n'en ont pas peur Julie, puisque ce week-end, comme on a pu le lire, l'association évangélique Vie et Lumière a donc décidé de se réunir à Nevoy dans le Loiret, 6 à 700 personnes sous un chapiteau pour élire un nouveau conseil d'administration, comme quoi on peut croire en l'élection divine, mais dès que l'on quitte le ciel, virtuel. Pour l'élection terrestre, il faut être en présentiel. Tout ça ressemble plus au jour de la marmotte qu'au jour du Seigneur. Vous savez, le jour de la marmotte, hein, je le rappelle aux mécréants, c'est ce film où un personnage revit sans cesse les mêmes événements. Donc là, on revit un peu le rassemblement évangélique, par exemple, de Mulhouse, du 17 février, une méga church où 2000 fidèles s'étaient massés, créant ainsi fort probablement le premier cluster de France. Alors tout ça met une fois de plus en lumière le lien étroit qui associe les religieux au cluster, les religieux de toute religion, hein, parce qu'on pourrait par exemple évoquer ce qui se passe à Jérusalem, à Brooklyn, où là, ce sont plutôt des juifs religieux qui, lors des célébrations, se sont contaminés. Bref, il y aurait un vecteur privilégié au Covid, non pas le SARS-CoV-2, ça c'est vrai sur le plan médical, mais sur le plan sociologique, le premier vecteur de la maladie, c'est le mana. Le mana, c'est le terme qui désigne, chez Émile Durkheim, l'effervescence collective propre aux communautés religieuses. Le mana est convoqué par les assemblées religieuses, explique Durkheim, lorsque les fidèles sont rassemblés pour communier dans une même pensée, dans une même action. C'est ainsi que Durkheim explique qu'une fois que les individus sont assemblés, ils se dégagent de leur rapprochement une sorte d'électricité qui les transporte vite à un degré extraordinaire d'exaltation. Sauf que les rapprochements en ce moment ne dégagent pas seulement de l'électricité, mais aussi de la charge virale. Et pour Durkheim, le mana est la preuve de la réalité de la communauté. Dieu peut bien ne pas exister. Ce qui compte, c'est la faculté d'une religion à créer, à recréer un être collectif. Le culte a réellement pour effet de recréer périodiquement, écrit Émile Durkheim, un être moral. Et cet être moral, on le sait maintenant, il peut souffrir du Covid.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Et à propos de Covid, mais pas seulement, l'hôpital public est-il prêt? C'est la question que l'on va se poser, que l'on va poser à deux médecins. Mathias Vargon, il est chef de service des urgences au centre hospitalier de La Fontaine à Saint-Denis. Agnès Hartmann, elle est chef de service de diabétologie à la Pitié-Salpêtrière à Paris. En attendant, il est 7h sur France Culture et je vous souhaite un excellent réveil.